Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 mars et je suis ravie de vous retrouver pour le mug ce matin. Je suis Marion et on va parler actualité tech tout de suite. Comment ça va dans la chatroom? Je vais vous accueillir et voir qui nous a rejoint déjà dès le début de l'émission. Ça fait trop plaisir de vous retrouver ce matin. Salut Grob, salut Technisavoir, salut Eliav, salut Faka Diablotin, salut Erwan Kenobi, salut Noirvent, salut Olek. Et un grand merci pour ton soutien. Ah bah quand même, c'est pas trop tôt au boulot. Mais oui, chef. Salut Olivier, salut Alan Poisson, salut Alex, salut Sam, Samuel, je t'ai déjà dit bonjour, non ? Attends, non, même pas. Du coup, je te dis bonjour. Tu me dis 5 sur 5, c'est parfait. Salut Manon, salut Tech On Me, salut Yves, salut un grand merci à Grolb. Putain, entre Olek et Grolb, 47e, 46e mois d'abonnement, ça, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, justement. Là, on y est vraiment. Un grand merci pour votre accompagnement et votre soutien tous les deux. Ça fait super plaisir. Salut Polaire, salut Pierre-Route. Content de vous retrouver également pour ce mug. Un grand merci à Pochardon pour ton soutien. Un grand merci à toi. Salut Witchblade84. Salut The Garlic Snail. Salut Tinis000. Salut Déclic. Qui j'ai pas encore vu. Salut Nicole qui demande. Un grand merci à Déclic également pour ton soutien. Un grand merci. Et puis fidélité, hein, 37e mois aussi, pas mal. Pas mal. Salut Alliance24, salut Ozik, salut Emix, salut et grand merci à Vrodka. Je fête mes 3 ans avec toi. Ah, oh, c'est beau. 3 ans, oh, non mais c'est dingue. On se disait justement, je crois que c'est Samuel qui disait ça aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est sur Twitch déjà. 4 ans, non mais ça me paraît dingue. Ça me paraît dingue. J'étais encore en train de me dire, mais c'est pas possible. Mais si. Donc voilà, déjà après tout ce temps, et train de la hype. Ça y est, vous êtes en feu là ce matin. Quel accueil. Faut qu'on prenne des semaines de vacances plus souvent. Et donc du coup, à qui j'ai pas dit bonjour encore. Salut Samuel Durand. Salut The Gabby King. Salut Tony Pepper. Salut Chamantech. Salut Lebouze 555. Un grand merci à Trollskillers également pour ton soutien. Un grand merci à Eliav également pour ton soutien. Merci Jean-Phi également pour ton soutien. J'ai pas le temps de dire bonjour avec tous les soutiens. Voilà, et un grand merci également à Kim Fesselor. Laissez-moi dire bonjour. Un grand merci pour vos soutiens, ça fait trop plaisir. Est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde? Je crois que c'est pas trop mal. Salut Dr Rictus, je t'avais loupé aussi. Voilà, bon, et ben quel démarrage en trombe ce matin, ça fait trop plaisir. Alors évidemment, je veux pas dire que j'étais pas contente d'être en vacances et tout, ça fait du bien de faire un petit break. On n'avait pas fait de pause depuis Noël, et je trouve que moi c'est un peu une période un peu difficile quand il fait froid et que le printemps tarde à arriver, etc. Et donc du coup là, je vous avoue que cette semaine ça nous a fait du bien. On a profité pour faire des travaux, ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Waouh, les super vacances et tout, mais c'est même pas une blague. Mais non, ça, c'était franchement top. Et du coup, on est super motivés d'être de retour. Je trouve que c'est le meilleur quand tu dis que tu as pu faire suffisamment une bonne pause pour être excité de revenir et de te relancer un petit peu sur tes sujets. Donc ça, c'est le meilleur, je trouve. Donc, on est bien. En tout cas, moi, je suis bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin en pleine forme, reposée et avec plein d'actualités tech. Parce que du coup, nous, on a pris des vacances, mais l'actualité tech, on n'a pas pris elle. Et donc, du coup, on a pas mal de sujets. Je ne vais pas traiter De tous les sujets qui ont fait la une ou qui ont pas mal buzzé. Donc, il y a peut-être des choses, des travaux. Il a encore mis des Philips Hue, du cirque Pinder partout. Non, mais on n'a plus d'emplacement au lac pour des nouvelles ampoules. Le problème, il est là, donc il ne peut pas en rajouter. Ou il peut en rajouter, mais elles ne seraient pas reliées. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose. Non, c'était plutôt travaux peinture. Ponçage peinture. Donc poussière et peinture partout, voilà. Donc voilà. Bref. Donc comme je disais, l'actualité tech, elle ne s'est pas arrêtée. Je ne vais pas pouvoir tout traiter ce matin, mais j'ai essayé de sélectionner quand même les sujets les plus intéressants. Vous allez me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans la chatroom. Donc un sujet pour commencer, on va commencer avec Apple pour commencer du bon pied. On a plusieurs sujets Apple. On va commencer notamment avec une affaire en justice, avec notamment une attaque sur les AirTags, avec une plainte qui avait été déposée, je crois, fin 2021. Sachant que les AirTags ont été lancés en 2021, donc très tôt finalement après le lancement, avec notamment des utilisateurs qui, pas des utilisateurs, mais des personnes qui se sont plaints de l'usage malveillant que certaines personnes peuvent faire des AirTags et que Apple n'a pas suffisamment mis de garde-fous finalement sur ce produit pour protéger les autres. Voilà, donc on reviendra là-dessus. C'est pas nouveau comme sujet, on en avait déjà parlé, notamment des AirTags qui étaient utilisés pour suivre et harceler des personnes, notamment malheureusement des femmes. Ça arrive plus souvent malheureusement avec des femmes. Et donc du coup, ils avaient déjà mis en place certaines mesures pour justement signaler quand un AirTag qui n'appartenait pas à une personne suivait une personne spécifique. Voilà, mais on reviendra un petit peu sur ce sujet et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà, on parlera sujet plus léger de la divulgation d'une roadmap. Donc une roadmap, c'est un peu une feuille de route de production de la société qui concerne Apple. Donc là, attention, hein, ça frétille, ça frétille. Donc on a pas mal d'informations supposées sur des dates de sortie de plusieurs produits Apple dans les années à venir, parce que quand on parle de hardware, de produits physiques, et ben du coup ça prend du temps en termes de production et donc du coup on a des feuilles de route qui s'étalent sur plusieurs années. Et donc là, on a ce genre d'informations à prendre avec des pincettes. Je vous le répéterai quand je parlerai de l'article. Attention, ce ne sont que des rumeurs et une feuille de route n'est qu'une feuille de route, c'est-à-dire c'est une information indicative sur des plans d'Apple, des plans qui peuvent changer en fonction de l'actualité, de contraintes, de changements de priorité, etc. Donc évidemment, à ne pas prendre au pied de la lettre ici, c'est juste une rumeur. Et puis, on parlera de quelque chose qui est plus vrai ici, parce que c'est Apple qui a communiqué sur le sujet. Et cette fois-ci, c'est l'intelligence artificielle avec Apple qui a dévoilé son premier modèle multimodal. De langage d'intelligence artificielle. Donc ça, on reviendra dessus. Multimodal, ça veut dire que c'est un modèle qui peut se reposer à la fois sur du texte et sur de l'image. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant comme capacité. Et du coup, on peut extrapoler un petit peu sur comment on voudra l'utiliser Apple. Mais en tout cas, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Donc voilà, donc on reviendra là-dessus sur justement cette question de Apple dans la course à l'intelligence artificielle, où est-ce qu'il se situe, mais on ne s'arrêtera pas justement à ce modèle multimodal MM1 ou MM1 en fonction de comment on prononce, mais on parlera aussi d'une rumeur d'un partenariat entre Google et Apple justement pour utiliser le modèle de langage de Google, Google Gemini ou Gemini. Sur l'iPhone. Vous allez me dire quoi? Alors voilà, donc ça c'est une rumeur. Il y aurait des discussions en cours pour une négociation ici et on parle bien du modèle de langage. On ne parle pas du chat de Google, parce qu'ils ont les mêmes noms maintenant, puisqu'ils ont renommé Bard Gemini. Donc attention, c'est pas la même chose. Le chatbot de Google, c'est un service Google qui a passé par les serveurs Google, etc. Le modèle de langage Google, c'est autre chose qui peut être déployé sur les serveurs d'Apple. Donc il n'y a pas de problème de data, etc. Et Apple pourra en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire lui donner des contraintes, des règles à respecter, etc., très spécifique, et le customiser pour ses propres besoins. Donc ça, voilà, comme ce que permet de faire OpenAI aussi avec ses contrats entreprises, etc. Donc attention, c'est différent. Voilà. Donc là, on parle uniquement d'une négociation qui concerne le modèle de langage de Google qui ferait son apparition sur les produits Apple. Donc, on reviendra évidemment, bien sûr, là-dessus. Et puis, on parlera d'une annonce où, finalement, c'est la PlayStation VR 2 de Sony qui tire sa révérence. Voilà, ils ont pris la décision pure et simple d'arrêter la production du casque de réalité virtuelle. Marché compliqué, marché qui va prendre plusieurs années potentiellement à se développer et peut-être à percer, hein, rien n'est moins garanti. Voilà, on reviendra dessus. C'est quand même une décision pas tout à fait étonnante à la vue du marché et de l'accueil du casque PlayStation VR 2. Voilà. Et puis, autre grosse news qui a fait le haut de l'actualité la semaine dernière, c'est qu'est-ce qui se passe pour le futur de TikTok aux États-Unis. TikTok dérange et dérange plus particulièrement les États-Unis, et notamment sur le traitement des données des utilisateurs américains. Voilà, et donc quand les États-Unis s'inquiètent, ils tapent un peu du poing sur la table. Ils ont notamment adopté une loi qui vise à forcer un changement de propriétaire de la plateforme sur le sol américain avec un délai de 180 jours. Voilà, cadeau. Je pense que voilà, c'est intéressant comme mouvement. On en parlera tout à l'heure, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine d'en parler parce que c'est assez important. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que... Ah, mince, j'ai plus accès à mon article. Hop. Ah voilà, c'est bon. On en parlera parce que ça montre aussi des dynamiques économiques mondiales qui sont assez intéressantes et des bras de fer assez intéressants. Et puis on terminera avec une dernière news, mais qui est quand même assez importante, et je pense que pour vous dans la chatroom, il y en a pas mal qui connaissent et utilisent Reddit et qui apprécient beaucoup la plateforme. Et ben Reddit est sur le point donc du coup de faire son IPO, hein, donc ça c'est un moment très très important pour la boîte, et ce qui peut inquiéter les utilisateurs. Donc ça m'intéressera d'avoir votre avis dans la chatroom, justement pour voir si vous êtes utilisateur de la plateforme, vous êtes inquiet par rapport à cette entrée en bourse de Reddit. Qu'est-ce que ça veut dire potentiellement pour Reddit? Quelles sont les peurs des utilisateurs? Et puis on continuera de parler avec cette entrée en bourse de Reddit, mais cette fois-ci avec l'action de la Federal Trade Commission qui a lancé une enquête concernant Reddit et notamment les contrats d'utilisation des données des utilisateurs de Reddit pour entraîner les modèles des sociétés d'intelligence artificielle. Et voilà, et donc évidemment la FTC, FTC commence un petit peu à investiguer ce genre de négociations, à s'intéresser un petit peu plus sur des contrats et des négociations qui touchent à l'intelligence artificielle, et je pense à juste titre, hein, ne serait-ce que pour se renseigner, s'informer et être au courant de ce qui se passe. Ça tombe pas forcément au meilleur moment pour Reddit, hein, disons-le, quand même. En termes de calendrier, je pense qu'il se serait un petit peu passé de ça. Mais c'est assez logique aussi. Donc on reviendra sur ce sujet en fin d'émission. Voilà un petit peu pour le sommaire ce matin, comme vous voyez, assez riche ce matin. J'en profite pour remercier ceux qui nous ont soutenus, que j'ai pas encore remercié ce matin. Donc un grand, grand merci à Pauline, à Doz, à Blackbird Studio et à Cyril Bouche pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous tous. Voilà, j'insiste hein, parce que c'est vraiment important. On peut se dire que c'est anecdotique ou c'est ennuyeux qu'à chaque fois j'interrompe l'émission pour remercier les gens. Mais non, c'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer le travail que l'on fait sur la chaîne et pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent sur la chaîne à vous produire du contenu de qualité. Donc un grand, grand merci aux personnes qui peuvent se permettre de nous soutenir financièrement. Et pour ceux qui ne peuvent pas, bah, y a d'autres moyens de nous soutenir, d'en parler autour de vous, de communiquer, de partager, de liker. Voilà, ça aussi, ça nous aide énormément. Un grand merci Fabrice M. pour ton soutien et un grand merci du coup à Grolb de l'avoir aidé pour son soutien. Un grand merci, vous êtes top la chatroom. Voilà pour le sommaire. Je vous propose de commencer sans plus tarder sur le premier article et on va commencer avec les actualités Apple et plus précisément, on va parler des AirTags. Les AirTags, je vous les remontre pour ceux qui se demandent un petit peu qu'est-ce que c'est. Ça ressemble à ça, ces petites pastilles rondes d'environ 2 cm de diamètre. Donc tout petit, hein, vous voyez vraiment dans l'échelle de la main ici. C'est des petits trackers. Des petits trackers Bluetooth qui coûtent pas très cher. Ils sont sortis en 2021. C'était Apple qui avait un peu repris à son compte hein, le concept des trackers Bluetooth du type Tile. Il y avait des trackers comme WiSticky à l'époque. Il y avait même un test que je vous avais fait avec WiSticky et qui utilise donc un réseau privé. Donc ici, pas de GPS ni de 4G. C'est des accessoires qui se reposent uniquement sur le Bluetooth et l'Ultra Wideband qui est donc l'intérêt plus économe en termes d'énergie. Ce qui est intéressant avec le modèle d'Apple et les AirTags plus spécifiquement, c'est qu'Apple se repose ici sur un réseau de plusieurs milliards d'iPhones dans le monde. Et donc ça, c'est vraiment tout le génie de la société. C'est tout possesseur d'appareils Apple devient finalement une maille anonyme pour renforcer le maillage et la couverture et la précision de localisation de ces petits AirTags. Voilà, pour pouvoir retrouver ses affaires. Donc, le concept et l'utilité de ces AirTags, c'est de vous permettre de ne plus perdre vos affaires. Donc, moi, j'en ai mis un sur mes clés, par exemple. J'en ai mis un, enfin, voilà, sur toutes les petites choses que j'ai pas envie de perdre, que ce soit sac, etc., etc. C'est vrai que le prix, ça va entre 20 et 30 euros. Donc, c'est vraiment assez pratique. Et ça a eu un grand succès quand même, hein, de par la facilité d'utilisation, la force de frappe d'Apple aussi, hein, et la qualité du maillage du réseau Apple. Donc, ils ont vraiment été vendus comme un accessoire pour tout retrouver, hein, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quand même utilisé pour d'autres usages. Plus ou moins... plus ou moins accepté ou supporté par Apple, on va le dire comme ça. Notamment, un usage, c'est pour lutter contre les vols. Donc, en effet, pour éviter de se faire voler des affaires, on va mettre un tracker dessus, pas pour éviter de se faire voler, mais pour pouvoir les récupérer facilement. On a ça notamment sur les vélos, etc., etc. Il y a ces accessoires-là qui existent, que ce soit aussi dans des sacs pour éviter de se faire voler des sacs ou de facilement les retrouver et tout. Il y a d'autres usages et notamment des usages qui sont carrément malveillants ici. Et notamment le fait de pouvoir glisser des AirTags pour espionner, harceler des personnes et suivre des personnes à leur insu. Et donc ça, c'est un vrai problème, un tel problème que Apple aujourd'hui est la cible d'une class action aux États-Unis autour justement de son produit des AirTags. Les plaintifs estiment qu'avec un prix justement de seulement $29, il est devenu l'arme de prédilection des harceleurs et des agresseurs. Comme je vous le disais, c'est une plainte qui a été déposée fin 2021, donc peu de temps finalement après la sortie du produit et de l'AirTag. Et la requête affirme qu'Apple a précipité les AirTags sur le marché avec des garanties insuffisantes pour interdire leur utilisation à des fins de harcèlement. Et ils poursuivent également... La conception de l'AirTag par Apple était défectueuse parce que le produit ne fonctionnait pas de manière aussi sûre qu'un consommateur ordinaire aurait pu s'y attendre lorsqu'il était utilisé ou mal utilisé d'une manière prévue ou raisonnablement prévisible. Donc ça, c'est assez intéressant. Je reviens ici pour ajouter quelques précisions qui manquent, je trouve, à l'article de Mac Forever, qui est un peu trop rapide à tirer des conclusions ici, je trouve, c'est que quand même, il faut rappeler que l'AirTag est tout petit. Il fait 2 cm et pèse 11 grammes. 2 cm de diamètre et pèse 11 grammes. Donc, très facile à glisser quelque part et à se faire oublier. Voilà. Et il a plusieurs mois d'autonomie, justement, grâce à son fonctionnement ici. En créant l'AirTag à l'époque, Apple avait pris soin quand même de protéger au maximum les données personnelles de ses utilisateurs. Donc l'AirTag est quand même un objet passif dans son fonctionnement. Il ne possède pas de moyen de se localiser lui-même et il ne stocke aucune donnée. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Le problème ici qui peut se poser, c'est qu'il y a eu quand même une multiplication de témoignages sur l'usage détourné et notamment voilà, sur des usages de harcèlement, de suivi de personnes à leur insu et notamment... Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, à la suite de cette polémique, Apple avait pris des mesures, notamment avec une mise à jour sortie en 2022, donc après la plainte, après le dépôt de la plainte à l'époque. Hein. Donc, il y a eu une mise à jour en 2022 qui a permis d'augmenter le volume sonore de la balise pour qu'on l'entende plus facilement, même caché, parce que comme il est tout petit, il se glisse facilement et quand il est au fond d'une valise, au fond d'un sac, il est de plus en plus difficile de l'entendre. Donc là, ils avaient augmenté le volume, ainsi qu'ils avaient mis en place un système de notification envoyé quasiment systématiquement si jamais le haut-parleur de l'appareil a été... Voilà, une notification est envoyée si une personne est suivie par un AirTag qui ne lui appartient pas. Voilà. Alors, il y a des conditions, hein, justement, pour définir ça. Mais voilà, pour avertir la personne qu'elle a un AirTag qui le suit. Ça fonctionne pas trop mal. Ça fonctionne plutôt bien quand la personne suivie a un appareil Apple, c'est-à-dire un iPad, un iPhone. Ça marche beaucoup moins bien avec les appareils Android. Du coup, suite à ça, Apple donc a contribué à populariser ce nouvel outil, mais qui peut être, comme je le disais, utilisé à mauvais escient. Et du coup, ils ont travaillé notamment avec d'autres acteurs, notamment... ils ont commencé à réagir le 2 mai 2023 en s'associant avec plusieurs entreprises de la tech qui produisent eux aussi des outils de géolocalisation, donc Apple, Google, Samsung, Chipolo, Tile, et ont annoncé tous ensemble vouloir lutter conjointement contre le détournement de ces espèces de petits trackers Bluetooth. Et du coup, de permettre des alertes à la fois sur les appareils Apple, mais également Android, sans avoir besoin d'installer une application tierce, etc. Parce que jusqu'ici, pour les possesseurs d'appareils Android, il fallait avoir une application dédiée. Donc, il fallait être au courant de ça, installer une application pour soi-disant se protéger et être alerté si on était suivi par un AirTag. Bref, ça commence à être évidemment compliqué et il est évident que le grand public ne va pas aller jusqu'à télécharger une application pour se protéger. Enfin, c'est un non-sens. Et donc, du coup, il y avait vraiment des trous dans la raquette ici en termes de sécurité des utilisateurs. Donc, je pense que c'est très important quand même de se le rappeler ici dans le contexte de la plainte qui a été déposée fin 2021 et la mise à jour qui a été faite courant 2022. Et cette discussion sur avoir une approche conjointe de tous ces fabricants de trackers en mai 2023 seulement. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, Android supporte nativement ces espèces de petites notifications aussi depuis récemment, hein, je crois que c'est depuis fin 2023, mais c'est relativement récent. Donc voilà, donc je c'était important, je pense, d'apporter cette nuance pour comprendre l'angle de la plainte. Voilà. Et donc, Hélène J, je ne sais pas comment dire ton pseudo, excuse-moi. Tu poses une question tout à fait pertinente ici. Qu'en est-il des compagnies des autres trackers? Est-ce qu'on les poursuit eux aussi? Non. Et c'est ça qui pourrait faire grincer des dents. C'est-à-dire que les autres compagnies du type Wistiki, Tile et compagnie, qui ont pendant des années fait leur business avec ce type de tracker, n'a jamais été la cible, finalement, de la justice ou de ce genre de plainte, ou en tout cas, les journalistes ne sont pas au courant, et moi, je n'en suis pas au courant. Donc, s'il y a eu des plaintes, n'hésitez pas à nous corriger, à me corriger sur les réseaux sociaux, avec plaisir pour corriger la semaine prochaine s'il y a une erreur ici. Mais à ma connaissance, et d'après l'article, il n'y a pas eu de plainte au préalable pour ces autres constructeurs. Et donc, du coup, il y a aussi un espèce de ras-le-bol un peu dans l'article que je peux sentir de « Ah, c'est toujours Apple sur qui on tape, c'est évidemment eux, et c'est une histoire de gros sous ». Oui et non, on peut le voir de manière différente, c'est-à-dire que Apple a largement popularisé un objet qui restait un petit peu de niche. Et donc, du coup, à faciliter cet usage malveillant, finalement, accessible à tous pour la modique somme de 30 euros pour pouvoir stocker, suivre et harceler des personnes. Voilà, donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Je pense que c'est le problème, et pourquoi on a visé Apple, c'est que c'est potentiellement un problème d'échelle. C'est-à-dire qu'avant, c'était relativement anecdotique. Aujourd'hui, c'est grand public et donc du coup, le problème amplifie et devient encore plus problématique, encore plus dangereux. Voilà. Donc, des fois, juste un changement d'échelle ou un changement de succès ou d'adoption de tel ou tel objet peut changer la nature même du problème. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça le cœur du problème ici, mais en tout cas, ça a appelé à plus de prise de conscience sur les dangers de ce genre d'appareil. Et je pense que c'est bien, quand même. Alors, je n'aurais pas visé uniquement Apple, mais bon, là, il se trouve que les victimes étaient victimes de l'usage de ces appareils. Mais voilà, je pense que c'est quand même bien d'apporter ça à la lumière du jour et les dangers de ce genre d'appareil. Donc, du coup... Apple, eux, s'étaient exprimés. Hein. Ils avaient dit la conception de l'AirTag. Alors attendez, il faut que je retrouve. Si je retrouve. Non, j'ai pas leur. Voilà, donc Apple, comme j'avais dit, avait mis en place des garde-fous. Voilà. Si un AirTag vous suit, comme je disais tout à l'heure, il va biper et même prévenir sur l'iPhone. Et maintenant, sur Android depuis récemment. Du coup, on a aussi, dans les cas de vol, quelque chose de moins pratique. Du coup, ça veut dire aussi que les brigands, les voleurs, vont être prévenus aussi s'ils ont un AirTag de ce qui était présent dans ce qu'ils ont volé, qui les suit. Oui, mais bon, prévenir le vol n'était pas le but premier de ces trackers. Donc voilà, le but premier de ces trackers, c'était de ne pas perdre, de vous aider à ne pas perdre les objets. Et je pense que c'est important qu'Apple reste ferme sur ce positionnement d'objets pour ne pas dévier, encore une fois, sur des usages et avoir des comportements très dangereux. Du type, on ne va pas prévenir quand on traque quelqu'un qui n'est pas le propriétaire de l'AirTag, parce que là, encore une fois, c'est la porte ouverte au harcèlement. Donc, excusez-moi ceux qui veulent empêcher les vols, ben, on s'en fout un petit peu parce que, en tant que femme, je préférerais être protégée contre le harcèlement. Hein. Voilà, donc on voit un petit peu le changement de perspective entre l'article de Mac4ever, que je trouve très, très axé dans un sens, de personnes qui a peut-être pas eu trop d'expérience avec le harcèlement versus d'autres personnes qui peuvent être plus sujettes à des risques de harcèlement qui va très vite voir le problème. Donc, j'étais un petit peu gênée, honnêtement, par l'angle de l'article. Hein. Je le dis, voilà, c'est un avis très personnel, j'étais un peu gênée. En tout cas, ce qui s'est passé fin 2021, on a eu environ 3 douzaines de femmes et d'hommes qui ont intenté donc cette class action. Après avoir déposé les plaintes, etc., uniquement 3 ont survécu un petit peu au process de dépôt de plaintes, etc. Évidemment, la principale plainte, c'est que les problèmes avec les dispositifs de sécurité de l'AirTag étaient importants et que ces défauts de sécurité ont causé leurs blessures. Encore une fois, il faut rappeler que en 2021, les problématiques de sécurité, il y avait eu une grosse polémique et Apple avait sorti des mises à jour pour répondre aux polémiques et prévenir les mauvais usages et essayer de protéger les utilisateurs qui avaient des AirTags qui les suivaient à leur insu. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très très important. Le fait que ça a pris du temps sur Android aussi était un problème. Un problème réel. Donc, on peut en effet critiquer le fait que là, on vise que Apple. En même temps, les victimes visent uniquement le produit dont elles ont été victimes, entre guillemets, ou les mauvais usages. Je suis d'accord que il y a beaucoup de produits qui pourraient blesser, notamment les couteaux, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on va interdire les couteaux, mais comme on le dit, il y a des mesures préventives pour protéger les mauvais usages ou les accidents. Typiquement, les couteaux, on va les ranger dans des étuis, etc., pour prévenir les blessures. Là, c'est un peu la même chose. On va adapter et prévenir les risques. À savoir que c'est pas la première fois où on met des garde-fous sur des produits où on va potentiellement limiter certaines fonctionnalités pour prévenir les abus. Autre exemple très parlant, c'est le bruit du déclencheur de l'appareil photo qui est obligatoire sur les smartphones au Japon. C'est pas une blague, hein. C'est pas le cas ailleurs, dans d'autres pays, mais c'est un accord tacite pour les constructeurs au Japon que les déclencheurs d'appareils photo doivent avoir du bruit, même si c'est un déclencheur numérique. Voilà, qu'il n'y a pas de déclenchement mécanique, etc. Donc, il n'y a pas besoin de faire de bruit, il n'y a pas de contrainte hardware à faire du bruit. Mais ils gardent le bruit. Pourquoi ? C'est pour éviter les prises de photos à l'insu des personnes. Donc, on voit bien ici qu'on peut limiter, voire dégrader l'expérience pour éviter des mauvais usages. Voilà. Donc, ici, on est sur quelque chose d'assez similaire. C'est que pour limiter des risques et certains usages malveillants, on va limiter certaines fonctionnalités et cantonner le rôle de l'AirTag, non pas à prévenir les rôles, ça n'a jamais été sa mission, et c'est très dangereux de le vendre comme tel, mais de pouvoir facilement retrouver ces objets. Voilà, moi je pense que c'est très important de faire la différence entre les deux positionnements et qu'en effet, il y avait un effort à faire de la part d'Apple et des autres constructeurs et d'Android pour pouvoir supporter justement ce type d'alerte et prévenir les utilisateurs. Donc moi je trouve ça, plutôt bien, voilà. Ça encourage les sociétés à prendre les responsabilités et à prévenir certains comportements malveillants qui, malheureusement, ne sont pas si rares que ça. Voilà. Bref. Donc voilà, je vous ai partagé mon avis qui est du coup différent de l'avis de Mac Forever. Mais si vous êtes curieux, je vous encourage à lire leur article. C'est intéressant de voir les deux perspectives ici. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Alors, normalement, Gabi Siga, normalement, depuis récemment, il faut voir quelle version d'Android tu as, parce que c'est sur la dernière version d'Android. J'essaie de te retrouver l'information. Voilà, les AirTags désormais détectés par Android. Voilà, dans la prochaine mise à jour d'Android, les trackers d'Apple qui vous suivent seront notifiés directement sans besoin d'une application tierce que personne ne connaît. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Alors, ils ne disent pas quelle version d'Android. mais l'article date du 11 mai 2023. Donc, je ne sais pas quelle était la dernière version d'Android à l'époque, de quelle version il parle. Mais a priori, parce qu'ils ont tendance à annoncer leur nouvelle version d'Android à la Google I/O, je fais une hypothèse, hein. N'hésitez pas à me contredire dans la chatroom. La Google I/O étant généralement en mai ou juin, dans ces environs-là, on pourrait dire que c'était dans la mise à jour qui a été annoncée en mai-juin de 2023 et donc qui est déjà sortie potentiellement à la rentrée, genre vers septembre, etc. Je suis pas une experte du calendrier des mises à jour Android. Donc s'il y en a qui savent dans la chatroom, n'hésitez pas à me corriger. Sur Windows Phone, il y aura la notification aussi. Je sais pas si c'est un troll ou si c'est une question sérieuse. Je sais pas trop qui a encore un Windows Phone. Je pense pas, non. Parce qu'en plus, c'est un OS qui a été arrêté d'être supporté. Donc malheureusement, non. Voilà. Je réponds sérieusement. Parce que ça peut être un sujet sérieux quand même. Est-ce que c'est le cas pour tous les Android, y compris ceux ne ressentant plus de mise à jour majeure, mais uniquement de sécurité? Gabi Siga, ça concerne tous les Android qui ont cette version Android. Donc, je suis désolée, je n'arrive pas à te dire quelle version d'Android c'est. C'est celle la plus récente qui date, qui était annoncée à la date du 11 mai 2023. Donc la dernière version d'Android. Il faut obligatoirement que ton Android ait la dernière version d'Android. Je ne suis pas sûre. Voilà, Android 14 a été lancé publiquement en octobre 2023. Merci beaucoup, Alan. Donc, je suppose que c'est celle-ci, puisque ça date du 11 mai. Donc, a priori, c'est Android 14. Donc, il faut que ton Android ait cette version-là. Les versions antérieures n'auront, enfin, j'ai aucune garantie qu'ils supportent nativement les notifications. Mais vous avez une application. Alors, est-ce que j'ai le nom de l'application? Je l'avais trouvé l'autre jour. Ta-ta-ta. Je regarde, hein. J'essaie de voir si je peux vous la retrouver rapidement. Non, je ne la retrouve pas. Mais il y avait une application avant, si vous cherchez Tracker AirTag ou AirTag Apple, peut-être, ou Tracker Bluetooth, peut-être que vous pourrez retrouver l'application. Je suis curieux de connaître le taux d'adoption d'Android, ouais. D'Android 14, ouais. Alors, Jérôme, j'espère que la fonction est désactivable car j'ai mis un AirTag sur les clés de ma fille et elle a un tel Android, ça risque d'alerter toute la journée. Ouais, bah ça, c'est un bon point. C'est un bon point. Il n'y a pas moyen que tu déclares que le AirTag lui appartient. Ouais, mais comme c'est un objet Apple, tu dois forcément le configurer avec un Find My Phone, enfin, Find My, l'application d'Apple. Donc, forcément, c'est sur ton compte. Ouais, je sais pas. Faudra voir. Faudra voir, faudra voir. Les AirTags, c'est très utile dans l'écosystème iOS, mais l'étendre vers Android, c'est pas très sécurisant et optimisé, non? Pourquoi, Stars? Ça m'intéresse d'avoir ton avis, de développer un peu cette idée. Pourquoi tu penses que c'est moins sécurisant ici? En fait, le but ici pour sécuriser, c'est de permettre aux personnes qui sont suivies à leur insu par des AirTags d'être alertées. Tout simplement. C'est surtout que ça va bipper chez les autres personnes autour d'elle. Je l'ai configuré comme si c'était son AirTag pour ma fille. Non, mais c'est si c'est si, alors là on vient sur la définition même de quand est-ce que le AirTag se déclenche à biper. Enfin, ils l'ont prévu pour hein, Apple. Moi par exemple, j'ai mon AirTag sur mes clés et je suis très souvent avec Jérôme et ça bipe pas. Ça bip pas chez Jérôme parce qu'en fait il faut que ça suive pendant plus de X heures à une certaine distance. Donc, on n'est pas tout le temps collés l'un sur l'autre. Pourtant, on vit ensemble, hein, mais on n'est pas tout le temps collés l'un sur l'autre. Du coup, ça ne bip pas chez lui. La seule fois où ça a bipé, c'est quand il avait pris mes clés, où il y avait mon AirTag dessus. Il a pris mes clés et il les a gardées avec lui. Et là, du coup, il a eu l'alerte sur son téléphone. Ce qui est logique. Voilà, parce qu'il les avait vraiment très proches de lui. Voilà. Donc, et il faut que le propriétaire de l'AirTag soit proche. S'il est très éloigné, ça bip pour les autres. Donc voilà, il y a pas mal de petites règles comme ça qui permet à l'AirTag de prévenir de manière relativement intelligente. Voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que vous flippez sur le fait de « Ah, mais ça va biper, ça va être pénible, etc. » Moi, je flippe sur « J'ai pas envie qu'il y ait un AirTag, sans que je le sache, qui me suive. » J'ai envie d'être alertée. Vous voyez un peu les problématiques et la perspective, comment elle peut shifter un peu, enfin changer. Donc voilà. En tout cas, je pensais que c'était important d'en parler parce que c'est justement... voilà, c'est quand même un produit qui peut être mal utilisé et dont c'est intéressant de prendre un peu de recul sur comment ça peut impacter les gens avec ces usages malveillants et essayer de les prévenir tant que possible. Voilà. Donc, je continue avec l'article suivant. On va continuer avec Apple. Et là, attention à prendre avec des pincettes ici parce que ce sont des rumeurs de feuilles de route de production d'Apple. Donc, on a eu déjà plein de rumeurs sur l'iPhone SE4, l'iPhone pliable, les lunettes de réalité augmentée d'Apple, etc. Mais a priori, voilà, on a un document qui a été divulgué de la société de finance Samsung Securities. Pourquoi on parle de Samsung, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. C'est un document qui a été dévoilé de la part de la société de finance Samsung Securities, pardon, qui a été dévoilé et publié par TechRev, qui est connu pour donner pas mal de rumeurs et de dévoiler pas mal d'informations. Et ce document offre une vue un peu globale sur comment prévoit Apple son cycle de production jusqu'à 2027. Donc ça, c'est assez intéressant parce que 2027, ça permet quand même déjà de se projeter un petit peu. On a notamment donc en 2027, donc assez loin, l'annonce potentiellement de lunettes de réalité augmentée. Encore une fois, je le répète hein, et j'insiste, c'est à prendre avec des pincettes ici, ce sont des rumeurs, mais a priori, il prévoirait en tout cas des lunettes de réalité augmentées pour 2027. On aurait également une version moins chère du casque de réalité mixte ou de computing, je ne sais pas quoi, enfin comment l'appelle Apple, en 2026, donc une version moins chère en 2026, ce qui n'est pas déconnant dans la mesure où ils ont annoncé le Apple Vision Pro fin 2023, qu'il est sorti là récemment. Donc du coup, se dire, ouais, un gap de 2 ans à peu près entre une version, une première version et une version un peu moins chère, pourquoi pas. Donc voilà, donc une version moins chère du Vision Pro en 2026. On aurait du côté des appareils pliables, un iPad de 20 pouces pliant en 2027, donc assez loin quand même, peut-être en attendant que la tech soit plus résistante, moins chère et qu'elle ait prouvé un peu sa solidité. On a déjà quand même des choses assez convaincantes en termes de smartphones aujourd'hui pliants qui sont assez impressionnants hein, vraiment en termes à la fois de pliure et d'invisibilité de la pliure et même à la fois de solidité. On sent que il y a des choses qui deviennent on a de moins en moins ce sentiment de fragilité, donc ça va vraiment sur du positif. Donc voilà, on aurait cet iPad pliant prévu pour 2027, mais c'est pas tout. On aurait un iPhone pliant de 8 pouces qui lui serait prévu une année avant, en 2026. Pas étonnant finalement que l'iPhone soit peut-être prévu avant, dans la mesure où c'est plus petit et du coup peut-être un peu moins fragile. Vous pourriez me dire que bah, l'iPhone, on le manipule plus souvent et tout, donc peut-être que ça serait plus fragile finalement. Les arguments se valent, honnêtement. Je n'ai pas un avis très très tranché sur le sujet, mais voilà, on aurait des appareils pliants qui devraient faire leur arrivée. iPhone pliant 2026, iPad pliant 2027, c'est ce que la feuille de route en tout cas indique. Du côté de l'arrivée de l'OLED, on aurait l'arrivée du MacBook avec un écran OLED en 2026. Voilà. Et pour l'année prochaine, donc 2025, on aurait l'annonce de l'iPhone SE 4. Voilà. Ce qui est déjà aligné finalement avec une rumeur qu'on avait vue déjà le mois dernier. Voilà, donc pourquoi pas, qui permettrait de faire évoluer, l'iPhone SE 4 vers un design plus moderne, un écran OLED, pourquoi pas, à voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette feuille de route ? On aura donc un iPad 11 pouces Pro qui va faire son arrivée cette année, également avec un iPad Pro 12,9 pouces, les deux avec un écran OLED. Voilà. Donc en gros, c'est à peu près tout. On a fait un peu à rebrousse-poil en commençant du plus loin au plus récent, au plus proche de nous. Mais voilà. Voilà un petit peu pour les annonces. Alors, à savoir que ça reste évidemment de l'ordre de la rumeur ici. Et aussi, une feuille de route n'est qu'une feuille de route. C'est-à-dire, elle est indicative des plans d'Apple, mais ce n'est pas gravé dans le marbre. Les plans changent et s'adaptent en fonction des contraintes, des priorités, etc. Donc, si ça se trouve, la feuille de route est valide, mais les priorités d'Apple vont changer au fur et à mesure et les date où la feuille de route va évoluer en fonction. Enfin, ça ne serait pas du tout étonnant. Donc, toujours à prendre avec un petit peu de recul, mais je trouve quand même ça intéressant de se projeter un petit peu, un peu plus sur le long terme ici. C'est relatif, hein, 2027, c'est très rapide, enfin, c'est relativement rapide quand même, mais ça permet de se projeter un peu sur de potentiels plans d'Apple ici. Voilà. Voilà, en tout cas, concernant cette feuille de route. Je continue, et cette fois-ci avec le gros sujet, finalement, d'Apple du jour, c'est Apple et l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler cette année, et c'est normal, hein, auprès de toutes les sociétés, c'est la nouvelle évolution tech que tout le monde regarde et tout le monde scrute, pour de bonnes raisons. Et du coup, ici, on a un article de AI Business que je vous encourage à lire, hein, si vous êtes plus calé et plus technique, ce qui n'est pas trop difficile que moi concernant l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, c'est un article qui date du 18 mars, d'hier. Oui, c'est ça, c'est pas une blague, d'hier. Et qui informe que Apple a dévoilé le MM1. C'est une famille de modèles multimodaux capables de gérer à la fois l'image et le texte. Donc voilà, c'est pas complètement nouveau. Il y a d'autres modèles multimodaux, hein, qui fonctionnent, enfin qui existent. Mais voilà, là, ce qui est nouveau, c'est qu'on parle d'Apple. Et déjà, des modèles multimodaux, c'est déjà un niveau assez important, hein, de gérer en combiné du texte et de l'image et de comprendre le contexte en fonction de ces deux types d'input différents. C'est très intéressant et ça ouvre pas mal de possibilités. Le modèle peut aller jusqu'à 30 milliards de paramètres et est assez compétitif avec les versions, les premières versions de Google Gemini. Le modèle MM1 ou la famille de modèles multimodaux MM1 peut suivre des instructions et raisonner à travers des images et les capacités de multimodal du modèle. Et là, on avait un exemple. Je ne sais pas si c'est très, très parlant ici. Hop, je vais essayer de vous partager l'image. Alors, ça rend que dalle à l'écran. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que vous voyez. Donc, vous avez un premier encadré blanc qui s'appelle User. Donc, User, c'est ce que l'utilisateur a partagé avec deux photos. Une première photo avec une vue de la plage, une table avec un parasol et deux bières posées sur la table avec des verres et des serviettes, etc. Et la seconde photo, c'est une photo de menu. Voilà. Et du coup, la question que l'utilisateur pose, c'est combien je devrais payer pour toute la bière qui est sur la table en fonction du prix sur le menu. Voilà, donc là, il donne une première référence avec la première photo et une seconde référence sur les prix avec la deuxième photo. Et donc, du coup, ensuite, vous avez différents encadrés de couleurs et les différents encadrés couleurs correspondent à différents modèles de langage qui sont comparés. Donc, le premier MM1 30B chat, c'est celui d'Apple. On a EmuChat 37B en dessous et on a LavaNext 34B en dessous. Voilà. Donc, vous remarquez déjà que les modèles auxquels MM1 est comparé sont beaucoup plus importants, 37 milliards de paramètres, 34 milliards de paramètres, alors que MM1 est plus petit, mais fonctionne mieux dans la démo. En tout cas, dans cette démo, fonctionne mieux parce que MM1 est capable de répondre très facilement et très rapidement 12 dollars, alors que les deux suivants font des erreurs, est assez importante quand même, parce qu'ils ont mal compté les bières et ils n'arrivent pas à déduire que les bières sont des Heineken et donc ils donnent le mauvais prix. Voilà, et on peut voir aussi l'utilisateur qui pose une seconde question, expliquer pourquoi, c'est-à-dire explique comment tu as calculé ce prix pour comprendre un petit peu comment ça a résonné, quelles informations ils ont récupérées ou pour calculer ce prix. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu un bref aperçu. Encore une fois, c'est une démo, hein, donc il faudrait tester par nous-mêmes pour voir un peu les capacités. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant de voir la démo. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette capacité multimodale permet du coup à MM1 comprendre, interpréter et tirer des conclusions d'après plusieurs images dans la même requête, au même moment, dans la même question. Donc ça, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. À quoi ça pourrait servir ? Après, là, ici, on peut imaginer pas mal de choses. Là, l'article mentionne notamment de permettre à Siri de répondre à des questions basées sur des images, par exemple. Donc, on pourrait imaginer de pouvoir utiliser Siri dans l'application photo, dans vos albums photos, etc. Moi, je vois d'autres usages, potentiellement des usages d'accessibilité, c'est-à-dire pouvoir automatiquement avoir une description des images qui sont partagées dans des échanges messages, puisque l'intelligence artificielle serait capable de comprendre un petit peu qu'est-ce que l'image représente. Donc ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que Apple, historiquement, a eu tendance à déployer des nouvelles fonctionnalités, d'abord d'un point de vue accessibilité, et ensuite de les démocratiser au grand public quand on a eu de l'adaptation, notamment le clavier avec les suggestions prédictives, là, les mots, les corrections orthographiques, etc., etc. On a pas mal de choses comme ça qui sont nées de problématiques d'accessibilité. Donc potentiellement, peut-être qu'ils pourraient commencer là-dessus, c'est-à-dire que ça permettrait, quand les images ont déjà une balise ALT, qui est une balise qui permet justement de renseigner la description de l'image, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de travailler, mais c'est pas tout le temps rempli, à la place d'avoir rien, d'avoir déjà quelque chose fait avec intelligence artificielle, c'est mieux que rien. Donc du coup, ça permettrait déjà d'être mieux que ce qui existe aujourd'hui. Donc ça, c'est pas mal aussi comme idée. Bref, il y a plein d'usages possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple travaille dur sur ses propres modèles d'intelligence artificielle. On n'a pas d'infos sur vraiment quels sont les plans d'Apple sur comment ça va être utilisé. On aura peut-être plus d'infos à la WWDC enfin à la conférence développeur d'Apple peut-être, ou en tout cas on aura très certainement l'utilisation de modèles locaux qui vont tourner en local d'Apple sur des fonctionnalités très très précises, voilà, comme c'est déjà un peu le cas sur certains éléments. Mais on voit en tout cas que les équipes d'Apple travaillent dur sur le sujet. Et donc là, on a notamment Brandon McKinsey, hein, qui est donc un ingénieur-chercheur senior chez Apple, qui a partagé justement un petit peu cette démo de MM1 et qui dit que c'est une série de modèles qui est compétitif avec Gemini ou Gemini One. Avec leur taille respective de modèles. Donc, ils en sont qu'au début, mais des débuts prometteurs. Et pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle, c'est-à-dire de la part de la boîte. Il y a plutôt des publications sur qu'est-ce que le modèle peut faire, un but de recherche, de comparaison, voilà, sur les différents modèles. Donc on est vraiment sur quelque chose de discret de la part d'Apple, parce que tant que c'est pas vraiment complètement prêt, et ben on va communiquer de manière adaptée. Donc là on est vraiment au stade plutôt de recherche, de développement, et donc du coup ils communiquent de manière adaptée plus sur un angle recherche. Et quand il y aura des usages grand public, ils vont se concentrer sur les usages et pas sur la machine qu'il y a derrière. Hein. D'après la tradition Apple, c'est comme ça qu'ils le font. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi la performance du modèle qui peut interroger, donc le MM1, qui contient donc 30 milliards de paramètres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il performe mieux que certains modèles pré-entraînés multimodaux dans des comparatifs. Donc notamment, MM1 réussirait à battre les modèles tels que Flamingo et Idéfix, qui ont le double de la taille de MM1, ce qui est pas mal, parce que du coup, ça permet d'avoir un coût performance plus intéressant ici. Voilà, en tout cas, sur les efforts actuels d'Apple. Mais, comme je vous disais, Apple, ils sont pas très en avance, ou ils sont en train d'accélérer, mais ils seront peut-être pas prêts eux-mêmes pour lancer des choses directement cette année, ou peut-être sur des fonctionnalités très, très spécifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des rumeurs où Apple serait en train de considérer un partenariat avec Google pour pouvoir utiliser le modèle de langage de Google sur les appareils Apple. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une information qui vient de Mark Gurman, que l'on connaît très bien de chez Bloomberg. Enfin, on ne le connaît pas personnellement, mais il est un journaliste reconnu et connu. Voilà, spécifiquement sur des rumeurs Apple. Et donc, dans un article du 18 mars 2024, donc juste hier, a priori, les deux sociétés auraient entamé donc une course contre la montre pour amener Gemini sur l'iPhone, le modèle de langage qui a été lancé par Google fin 2023. Donc là, on ne parle pas de Bard, qui était l'espèce de petite chatte Google, mais vraiment du modèle de langage. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment différent, j'insiste, parce qu'il peut y avoir des confusions. Et donc, a priori, ça voudrait dire que la mise à jour iOS 18 pourrait faire basculer potentiellement l'iPhone dans une nouvelle ère, tout en étant la preuve aussi qu'Apple a accumulé peut-être un peu trop de retard ou a été un peu long au démarrage pour pouvoir avoir son propre modèle de langage dès iOS 18. Mais d'après ce qu'on vient de discuter, on a déjà quand même des signes encourageants sur le fait qu'ils travaillent activement sur le sujet. Et donc, du coup, même si Apple, comme je disais, a publié divers projets sur des sites dédiés à la recherche, on n'est pas encore près de quelque chose de très, très mature, a priori, pour arriver sur iOS 18 de manière plus globale. Et donc, du coup, Google Gemini, voilà, qui fonctionne dans le cloud, pourrait être plus adapté pour certains éléments, peut-être pour générer du texte et des images, voilà, qui nécessitent un peu plus de puissance. Alors, pourquoi s'allier avec Google? Bah, c'est pas forcément, moi, je trouve pas ça très étonnant, justement, par rapport, on pourrait se poser la question par rapport à OpenAI, etc. Bah, pourquoi? Parce que Apple a déjà des partenariats historiques avec Google, notamment avec Maps, YouTube, Search, enfin le moteur de recherche, etc., qui est quand même le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone, hein, et Google paye très cher justement pour être le moteur de recherche par défaut. Donc ils ont déjà des partenariats de longue date, entre Google et Apple. Pourquoi pas OpenAI? Bah parce que OpenAI, Microsoft a mis le grappin dessus quand même de manière assez importante. Alors, VD3X, justement, tu partages le commentaire où il y a eu pas mal de confusion sur cette annonce. Tu me dis, il faut voir comment c'est implémenté. Apple, c'est privacy by design, Google, pas trop. Et c'est là où il y a une confusion entre un modèle de langage et un chatbot. Il n'y a pas de notion de privacy quand on parle de modèle de langage, parce que c'est juste un modèle de langage que Apple peut faire tourner sur ses propres serveurs, qui ne va pas envoyer ou traiter des données par Google ici. C'est ça la différence. C'est une technologie, un modèle de langage qui va être utilisé sur les serveurs d'Apple. Donc il n'y a pas de données qui va transiter chez Google. Google n'y aura pas accès. Il n'aura aucun accès. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problématique de privacy ici. Vraiment pas. Donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce sujet. Et c'est la confusion qu'il peut y avoir entre se dire on va utiliser le chatbot de Google, qui lui, bah, du coup, passe par les serveurs de Google, qui s'appelle aussi Gemini, maintenant qu'il a été renommé, versus le modèle de langage. Donc, ce sont deux choses différentes. Et un modèle de langage peut être fonctionné sur des serveurs dédiés de la boîte qui les fait fonctionner. Il y a la même possibilité, hein, côté OpenAI aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de confusion sur Internet. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de clarifier ici. Merci beaucoup, Staff Bébé Chat, pour ton soutien. Un grand merci également à Eros, Creatix, Dams Dream, Cyber Simple, Julie 1M, ou Julien M, pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous tous de nous soutenir ce matin. Voilà. Oui, voilà. Y a la différence le chatbot et l'interface conversationnelle, ce n'est qu'une manière d'utiliser un modèle de langage d'intelligence artificielle. C'est une interface. Ce n'est pas comparable à un modèle de langage en tant que tel. C'est le modèle de langage, c'est la technologie derrière finalement. Ce n'est qu'une interface. Et donc là, Apple utilise que la technologie derrière qu'il va mettre sur ses propres serveurs, mais ne va pas utiliser le calque dessus, quoi. Donc voilà, donc très très important de faire la différence, parce que du coup ça permet de mettre les limites sur en termes de privacy et de sécurité, de confidentialité et de sécurité. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que j'ai d'autres informations intéressantes? Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tout cas, il est sûr qu'à l'annonce d'iOS 18 et cet été, on aura des informations sur l'usage de l'intelligence artificielle par Apple sur l'iPhone, potentiellement l'annonce d'un partenariat avec Google et Gemini. Comment, ça reste à voir. Peut-être que ça sera, imaginer des résumés de conversation, des outils d'édition de photos ou la transcription de l'audio en temps réel. Il y a de plus en plus d'applications qui font ça. Et franchement, là, il y a des applications de transcription d'audio en temps réel qui sont tellement bonnes. C'en est vraiment bluffant, c'est-à-dire que vous pouvez parler naturellement en faisant des « e », en hésitant, en vous reprenant, etc. Ça ne fait pas de faute. Enfin, c'est très, très, très bluffant. Donc, on a atteint un niveau très impressionnant qui peut vraiment bouleverser un petit peu nos usages. et potentiellement qui pourrait largement améliorer Siri aussi. Ce qui serait pas un mal. Mais bon, pas sûr que ça arrive à iOS 18. Voilà, donc pas étonnant. Après, est-ce que le partenariat va être vraiment, comment dire, sur le long terme pour Apple ? J'en doute. Je pense que c'est surtout pour Apple de... se lancer sur le sujet, commencer à déployer des usages et habituer peut-être certains utilisateurs ou habituer les utilisateurs à certaines fonctionnalités, certaines attentes, parce que l'éducation sur les usages va prendre du temps. Donc, plus tôt on le sort, plus les gens vont s'y habituer et l'accepter et l'utiliser, et ça va faire partie de la nouvelle norme. Donc, c'est intéressant de s'y prendre relativement tôt. Mais du coup, potentiellement pas assez prêts pour utiliser leur propre modèle. Donc, en attendant, ils font appel à un partenariat avec Google. Mais du coup, eux, ça leur permet de travailler en parallèle sur leur propre modèle de langage, comme on a pu le voir avec MM1. Et ce ne serait pas étonnant. Je veux dire, Google Maps était du coup l'application par défaut pour la direction, etc. sur Apple, jusqu'à ce que Apple Maps arrive. Et puis après, il s'est fait virer, quoi. Enfin, vous pouvez toujours l'installer, mais il faut l'installer proactivement, quoi. Donc, à voir. Mais voilà, je pense que c'est temporaire, en tout cas sur... je pense que c'est temporaire sur la capacité à Apple à développer relativement rapidement son intelligence artificielle, ses modèles, parce que ça n'en est pas qu'un, mais ça en est plusieurs, et ça va arriver progressivement. On peut revenir aussi sur les problèmes la capacité ou la difficulté de Google Gemini de traiter certaines questions, notamment en ajoutant la problématique d'inclusivité à des images qui fausses ou désinforme sur des faits historiques, comme dire qu'il y avait des nazis d'origine afro-américaine, non, c'est pas possible, ou noirs, bref. Il y a des choses comme ça, donc ça c'est vraiment de la désinformation sur des faits historiques. Alors ça va être intéressant parce que c'est pas forcément un problème qui va concerner Apple directement. Ils pourront justement, comme je disais, customiser et donner leur propre cadre et consignes au modèle qu'ils vont utiliser, au modèle de langage de Google. À chaque fois qu'on utilise une base de modèle de langage, on peut le customiser, lui donner ses propres consignes pour l'améliorer, le développer, etc. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, à voir ce que va en faire Apple. Et je pense que de toute façon, Apple est connu pour être très précautionneux et va peut-être limiter les usages et pas forcément avoir quelque chose de conversationnel dès le début avec ça. À voir. En tout cas, c'est très, très intéressant et excitant pour la suite. Alors oui, par contre, tu soulèves quelque chose de très intéressant, Arnaud Sans Atelier. La longueur du partenariat entre Apple et Google peut être influencée par l'Europe. Oui, parce que ça peut soulever des craintes de monopole aussi et d'anticompétitivité. Donc à voir, mais à voir un petit peu aussi la modalité du partenariat. Hein. Mais oui, je pense que c'est un vrai élément ici. Voilà. Il y a des conversations parallèles dans la chatroom. à voir. Bref, je vous propose de continuer avec cette fois-ci. On sort du domaine de l'intelligence artificielle pour plonger celui de la réalité virtuelle. Et cette fois-ci, c'est avec Sony et son PlayStation VR 2. Voilà, nouvelle annonce de Sony, donc constructeur japonais, qui annonce qu'il ne produirait plus d'autres exemplaires du casque de réalité virtuelle, son PSVR 2. Une décision donc qui est peu surprenante qui est tout simplement motivée un peu par le marché actuel. Quand on regarde un peu ce qui se passe, on a Meta qui en est à sa troisième itération du casque Quest. On a HTC qui n'en finit pas de décliner son Vive. Et on a Apple qui vient à peine de lancer début 2024 son Vision Pro, son casque Vision Pro, qui est vraiment un produit, comme on appelle, MVP. MVP, c'est Minimum Viable Product, le produit minimum viable. Voilà, donc on en est vraiment au tout début, à la première itération qui n'est pas dédiée au grand public ici, clairement pas. Et il y a un article extrêmement intéressant, une analyse extrêmement intéressante que moi j'ai partagée sur mon compte Threads, que j'ai partagé hier sur un article de Benedict Evans qui analyse justement la stratégie d'Apple avec le Apple Vision Pro et la stratégie de Meta avec le Quest, et comme quoi c'est deux stratégies différentes, et que clairement pour Apple, le Apple Vision Pro est une stratégie, en tout cas la sortie, très non Apple. C'est-à-dire que c'est un produit qui n'est vraiment pas destiné au grand public, qui n'est pas du tout prêt, qui va mettre plusieurs années avant de potentiellement avoir une version qui sera prête pour le grand public, ce qui n'est pas dans les habitudes d'Apple ici. Et donc, du coup, c'est très... voilà, c'est un article, je vous encourage à aller le lire. Ça donnera un peu de perspective sur, justement, le marché un peu de ces casques de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, enfin, comme vous voulez les appeler, et sur ce que ça représente comme marché. Mais voilà, et donc du coup, très logiquement, on a donc Sony qui a donc sorti son PlayStation VR 2 en février 2023. Et s'ils étaient très confiants à l'époque de vendre 2 millions d'exemplaires, la réalité est que finalement, on en est très loin, puisque seulement 595 500 casques ont été expédiés au premier semestre 2023. Et ce chiffre ne fait que baisser, alors que celui de Meta continue, lui, à grimper. Donc, on savait que le casque de réalité virtuelle de Sony était un échec commercial rapidement, malheureusement, après sa sortie. Et donc, du coup, très logiquement, les invendus commencent à s'accumuler. Et donc, ce n'est pas très étonnant que la société japonaise souhaite mettre un terme un petit peu à la production ici. Et donc, il y a évidemment plusieurs facteurs qui peuvent jouer dans cette décision. Et ça, c'est l'analyste Yijia Zai, excusez-moi pour d'avoir écorché le nom, qui mentionne le prix élevé des appareils VR constitue le principal obstacle à leur expansion. Actuellement, il existe un nombre aussi limité de jeux le prenant en charge, ce qui entraînera également un manque de motivation chez les joueurs à acheter du matériel VR. On a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, le coût de développement des jeux VR est nettement plus élevé que celui des titres normaux. Donc on a quelque chose d'un cercle un peu vicieux ici, que le coût à l'heure actuelle, à la fois pour produire des jeux vidéo compatibles VR, est cher, ce qui fait qu'il y a moins de jeux ou pas trop de jeux encore dispo, ce qui fait que ça ne motive pas les utilisateurs à l'acheter, d'autant plus que le prix est aussi cher parce que les composants du casque sont relativement chers encore aujourd'hui. Et donc du coup, la décision de Sony, elle fait suite quand même à celle qui a été prise le mois dernier de fermer sa division PlayStation Londres, qui était spécialisée dans la création de jeux en réalité virtuelle, très logiquement. Et c'est peu probable que Sony compte abandonner totalement le marché de la réalité virtuelle, puisqu'elle cherche à rendre le PSVR 2 compatible quand même avec les PC dans le courant de l'année. Donc voilà, il y a une espèce de seconde vie potentiellement qui pourrait arriver. Mais surtout, voilà, on sait aussi qu'on a, d'après Francisco Geronimo de l'IDC, le secteur de la VR qui devrait augmenter de 31,5% par an entre 2023 et 2028. Donc c'est quand même un pari. C'est un pari, mais un pari à potentiel intéressant. Et donc, du coup, Sony aurait tort peut-être de s'en priver. Voilà, c'est quand même intéressant d'en parler. Donc, à voir en tout cas en ce qui concerne Sony pour le futur. Pour l'instant, c'est un chapitre qui se ferme pour le PSVR 2, mais peut-être pas totalement, et c'est peut-être temporaire en attendant que le marché mûrisse un petit peu plus. On continue, et cette fois-ci, on va parler de l'autre grosse news qui concerne TikTok. Alors, Vous avez très certainement entendu parler de qu'est-ce qui se passe du côté de TikTok. On a le Congrès américain à Washington qui a adopté une loi visant à forcer un changement de propriétaire de TikTok. Voilà, et ce, dans 180 jours, hein, donc 6 mois. Et donc, dans le cas contraire, l'application sera retirée tout simplement de la circulation. En tout cas, si vous êtes sur le sol américain, il ne sera plus possible de l'installer. Donc, le projet de loi va maintenant être transmis au Sénat américain, où les positions ne sont pas encore tout à fait claires. En tout cas, du côté de la société mère de TikTok, le géant chinois ByteDance veut à tout prix empêcher cette loi par tous les moyens. Ce n'est pas très étonnant. Hein. La vente, c'est vraiment la dernière option possible. Et donc, en gros, est-ce que c'est vraiment réaliste une interdiction de TikTok ? Alors, ça semble quand même assez réaliste, tant la Chambre des représentants que le président Joe Biden ont montré leur soutien à des mesures dans ce sens. Donc ça, c'est ce que nous dit Manuel P. Napo, directeur de l'Institut pour le commerce numérique à la Haute École d'économie de Zurich. Et il dit, c'est un jeu de muscles entre, c'est un peu un bras de fer, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre l'Amérique et la Chine. On le voit aussi dans l'argumentation des députés. TikTok est considéré comme un danger pour la sécurité nationale américaine. Si le Congrès américain parvient à ses fins, 170 millions d'Américains et d'Américaines seront privés de l'application. Donc, une interdiction du réseau social est techniquement réalisable en retirant l'application des App Store, tout simplement, et en bloquant son utilisation aux États-Unis. Toutefois, les utilisateurs pourraient encore une fois contourner les restrictions avec, on les connaît, des VPN, ce qui rendrait évidemment difficile sa totale interdiction, mais qui pourrait quand même limiter. Voilà. Donc si finalement ça se poursuit, ça serait vraiment une première et ça pourrait potentiellement servir de modèle à d'autres pays qui souhaiteraient également restreindre TikTok. Alors, est-ce qu'ici on parlerait potentiellement de l'Europe? Ça semble quand même peu probable. On a vu que l'Europe était quand même moins inquiète que l'Amérique en ce qui concerne TikTok. Et surtout, on a déjà des lois, notamment le RGPD, qui protègent aussi l'utilisation des données des utilisateurs européens. Voilà. Mais c'est vrai que cette histoire autour de TikTok, ça marque vraiment un tournant qui montre que la technologie n'est pas et n'est plus intouchable. Pendant longtemps, le développement des nouvelles technologies, c'était un peu l'Eldorado, ça n'a jamais été freiné. Mais ces dernières années, on a de plus en plus de barrières politiques et légales auxquelles les entreprises doivent se conformer et qui voient le jour. On a notamment dernièrement le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été émis par le Parlement européen. Donc, en ce qui concerne les Américains ou le Congrès américain, ils s'inquiètent surtout ici aussi des données des utilisateurs américains. Ils soupçonnent notamment ByteDance, donc le propriétaire de TikTok, d'être de mèche avec le gouvernement chinois et de transmettre les données sensibles des utilisateurs de millions de citoyens américains. Ce n'est pas un soupçon qui est totalement sans fondement, puisque on a appris à l'été 2022, suite à des révélations de BuzzFeed, que finalement, toutes les données pouvaient être consultées en Chine. TikTok avait prétendu stocker toutes les données des utilisatrices et utilisateurs américains et européens en Amérique et à Singapour, mais finalement, les révélations de BuzzFeed avaient quand même mis à jour le fait que les données pouvaient être consultées depuis la Chine néanmoins. Donc ça, c'était quand même assez, assez problématique. Et ça avait créé un tollé public à l'époque. Donc on parle de cette loi, de ce projet de loi. On parle de risque de rachat, de blocage ou de risque de rachat. Mais si c'était un rachat, qui pourrait racheter TikTok ? Surtout que je rappelle qu'on a pas de valorisation publique ou d'informations financières très accessibles concernant TikTok. Donc, c'est aussi difficile de lui mettre un prix. Et puis, la valorisation était quand même très, très, très importante. Donc, il faut pouvoir se permettre de débourser ça. Donc, qui pourrait être intéressé par acheter TikTok ? Au final, il faudrait que ce soit l'un des grands acteurs tech. Ça sera très cher. Et ensuite, il faut aussi regarder quel monopole potentiellement ça pourrait créer si c'était un géant de la tech. Et donc là, il y aura aussi potentiellement des problématiques de compétition qui vont rentrer en jeu. Donc il y a certaines plateformes qui ont des modèles commerciaux assez proches, mais du coup, la question se posera de voir si elles vont être freinées par la loi sur la compétition, quoi, pour éviter de créer un avantage sur un marché. Donc à voir. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Ça va faire comme Twitch en Corée du Sud, ça aurait dû être fermé et au final ça marche mieux qu'avant parce que les VPN. Ah, intéressant. Starsman, je veux bien acheter TikTok pour 1 € symbolique. Enfin bon, voilà en ce qui concerne TikTok et le petit rattrapage en termes d'informations. Dernière news de la journée, et pas des moindres, c'est la news concerne la plateforme Reddit. Ça m'intéresse de voir est-ce qu'il y a des utilisateurs de Reddit dans la chatroom. N'hésitez pas à vous signaler. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe avec Reddit ? Un petit peu de contexte ici. Pour rappel, Reddit est en train de compléter son Initial Public Offering, donc son entrée en bourse ici, qui était depuis longtemps attendue, hein, faut pas se mentir. Voilà, à une valorisation de 6,4 milliards de dollars. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Reddit avait à l'origine fait cette démarche avec une soumission confidentielle fin 2021 et Reddit avait était devenu profitable au dernier trimestre 2024 et avait justement ouvert un nouveau moyen de générer du revenu en vendant la donnée des utilisateurs, ou en tout cas des postes, à des sociétés d'intelligence artificielle pour entraîner leur modèle. Puisqu'ils ont des centaines, des milliers de messages disponibles sur des sujets, etc., et sur l'expression de personnes sur des sujets divers et variés. Donc ça, c'était un nouveau moyen de revenu, tout simplement. Et donc du coup, avec cette entrée en bourse, c'est la première entrée en bourse pour une plateforme de réseau social depuis Pinterest en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la plateforme Reddit, il y a eu pas mal d'utilisateurs qui... Il y a un subreddit sur tout ce qui existe, tout à fait. Il y a eu pas mal d'utilisateurs qui ont soulevé des craintes concernant cette entrée en bourse. Alors, pourquoi il y a des craintes ? Ben, tout simplement parce que la modération de petites communautés doit être le travail des membres de la communauté et c'est difficile d'imaginer des personnes qui vont aider et qui vont être volontaires pour aider Facebook, Microsoft ou d'autres sociétés qui sont publiquement cotées en bourse et qui représentent voilà, des sociétés à X millions de dollars, milliards de dollars. Donc ça, c'est qu'un des utilisateurs de Reddit a exprimé. Donc il y a un peu cette crainte d'aspect mercantile et de profit qui pourrait prendre un petit peu le devant concernant Reddit. Et on l'a vu en fin d'année, hein, sur trouver des moyens de générer du profit, ce qui inquiète les utilisateurs. Un autre élément qui survient aussi, c'est que les utilisateurs sont pas mariés à la plateforme. Contrairement à Facebook, où Facebook a finalement bloque les utilisateurs parce que on a son groupe d'amis ou son groupe de famille disponible sur Facebook. Et donc, on va pas totalement désinstaller Facebook. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait, mais voilà, on nous a, à cause du réseau, finalement, personnel, alors que certains disent que ben, quand je partage sur Reddit, c'est comme si je criais dans le vide et la récompense, c'est des centaines de upvotes. Et donc, du coup, il n'y a rien de spécial sur la plateforme comparé à une autre. Alors ça, je pense que c'est un petit peu... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas une utilisatrice de Reddit. Je suis très utilisatrice occasionnelle, notamment pour me débloquer sur le jeu Hello Kitty ce week-end. Parce qu'il y avait un bug du jeu. mais sinon, non, je vais pas... je suis pas une utilisatrice de... Je suis pas une utilisatrice de Reddit, non. C'est intéressant ce parallèle entre être marié à et être bloqué. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Starsman nous dit qu'il n'y a aucune modération sur Reddit. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. Ça dépend des communautés, j'ai envie de te dire, des subreddits. Ça dépend. Mais en tout cas, voilà, il y a ce genre de crainte qui émerge. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, donc les utilisateurs sont un petit peu inquiets. Et ce qui est intéressant, c'est donc on parlait de ce nouveau moyen de revenu que Reddit avait mis en place avec justement la vente, le fait d'avoir une licence pour les données des utilisateurs à vendre aux sociétés d'intelligence artificielle pour entraîner leur modèle. Et ben ça a attrapé l'œil de la FTC, la Federal Trade Commission, qui regarde un petit peu à ce genre de deal, de négociation. Et du coup, ça montre un petit peu que la FTC est en train de regarder d'un peu plus près tout ce qui sont les négociations qui vont inclure ou toucher l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est pas mal. En termes de timing, on aurait pu avoir un timing un peu meilleur pour Reddit parce que ça peut inquiéter un petit peu pour ça. Voilà, Reddit a reçu quand même une lettre jeudi dernier qui informe que la FTC va conduire justement une enquête privée qui va être concentrée sur la vente, la licence et le partage du contenu généré par les utilisateurs à des tierces parties pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Ce qui est assez logique et pertinent, moi, je trouve, de la part de la FTC. Mais c'est vrai que ça peut inquiéter pour l'entrée en bourse. En tout cas, eux, Reddit, ont dit évidemment aux potentiels investisseurs que partager du contenu avec les sociétés d'intelligence artificielle, à la fois pour entraîner des modèles de langage large, et pour la recherche, va être un nouveau moyen lucratif de générer du revenu, ce qui est certes en effet vrai, puisque le dernier trimestre l'a montré, mais à voir voilà, si c'est quelque chose qu'on veut ou que les utilisateurs sont prêts à faire. À voir. Moi, je dis l'entrée. Oui, à l'entrée en bourse de Nautech, au moins. Les communautés politiques sont super modérées, mais pas forcément dans le bon sens. Ouais. Oui, ça. Ouais. Ok. Donc voilà, en tout cas, pour Reddit, grosse actualité, en tout cas, pour Reddit cette semaine. Ça va être intéressant à suivre. Est-ce que j'ai la date exacte ? La société va être prête à offrir 22 millions d'actions entre 31$ et $34 par action et va du coup être sur le marché public dès jeudi. Donc ce jeudi-là. Donc très très vite. Donc à voir hein, comment ça va se passer. Sachant que les entrées en bourse pour les sociétés tech ont été assez comment dire, c'est pas une garantie de, c'est pas une garantie de succès, hein, encore une fois. Uber avait un petit peu galéré son premier jour d'entrée en bourse, puisqu'ils avaient terminé en dessous de leur prix d'ouverture. Donc voilà, bon, maintenant ils se sont rattrapés, hein, et notamment ils ont eu un record en février dernier à 81 $. Etsy, qui eux étaient qui étaient allés public en avril 2015 à 31 $, ben en novembre dernier ça avait baissé jusqu'à en dessous de 10 $. Et Robinhood, voilà, c'est compliqué aussi. Donc c'est pas une garantie de succès, encore une fois. Voilà pour les articles et l'actualité ce matin. Il est déjà 9h30. J'en profite pour remercier Nounix pour ton soutien en cette fin d'émission. Comme il est 9h30, je vous propose de pas forcément faire de questions, de discussions. Là, j'ai fait plutôt un petit rattrapage des grosses news tech qui étaient sorties dernièrement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, puisqu'on est là, ça y est, on est revenu. La semaine prochaine pour la suite en ma compagnie. Mais sinon, vous retrouvez Jérôme dès jeudi pour le prochain mug, jeudi et vendredi, pour débriefer de l'actualité tech. Avant de se quitter, on va voir vers qui on peut faire un petit raid ce matin, pour ne pas vous laisser en plan quand même. Hop, je regarde. Qui est ici? Qui est en live? Là, on va faire un petit coucou à... Un monde de jeu, tiens. Allez, ça va être bien, ça. Tiens, ça va être bien. Allez, on va faire ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Et puis sinon, retrouvez Jérôme dès jeudi cette semaine pour le prochain mug. Un grand merci de m'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et très bonne journée. Ciao, ciao.